Sud Radio.
Le grand référendum. 11h midi.
Philippe David.
Allez, c'est parti jusqu'à midi les amis. Merci d'être avec nous pour cette dernière heure avec Philippe David et ses invités dans le grand référendum. Comme chaque jour, une question à laquelle vous répondez. Vous avez quasiment une heure. Allez, voiture brûlée du nouvel an. Faut-il croire aux chiffres du gouvernement? Dites-nous ce que vous en pensez. Donnez-nous votre avis en direct sur l'antenne. Vous passez au 0826 300 300 et bien sûr, comme d'habitude, sur sudradio.fr où il y a une petite consultation. Vous laissez votre voix, vous répondez oui ou non à la question et vous laissez aussi vos commentaires.
Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, s'est félicité dimanche 1er janvier du bilan de la nuit de la Saint-Sylvestre qui, je cite, s'est déroulé sans incident majeur. Dans le communiqué publié dimanche, on peut lire « Cette année encore, le bilan des véhicules brûlés démontre qu'aussi intolérable soit-il, le phénomène est contenu par rapport à 2016 avec 650 mises à feu directes, là où elles étaient 602 l'an passé. » Sur les 5 dernières années, le nombre de véhicules brûlés a diminué de 20%. Fin de citation. On peut déjà noter que, selon les chiffres donnés par le ministre, les mises à feu directes ont augmenté de 8% par rapport à la précédente nuit de Nouvel An, ce qui ne peut pas fondamentalement être qualifié de phénomène contenu pour reprendre la citation. Mais surtout, M. Le Roux évoque les mises à feu directes, c'est-à-dire les départs de feu, et non pas le nombre de véhicules brûlés, qui comprend ceux qui se sont enflammés par propagation, d'où la question du grand référendum du jour aujourd'hui, de 11h à midi sur Sud Radio, voiture brûlée du nouvel an, faut-il croire aux chiffres du gouvernement? Avec nous, Didier Martinez, délégué régional Occitanie du syndicat SGPFO Police, bonjour.
Bonjour Philippe.
Bienvenue sur Sud Radio et meilleurs vœux comme nous sommes le 3 janvier. Xavier Offert, criminologue, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio et meilleurs vœux à vous aussi. Et Gilbert Collard, député Rassemblement Bleu Marine du Gard, bonjour.
Oui, bonjour et bonne année, je l'ai dit avant.
Oh, vous m'avez pris de vitesse, Gilbert Collard. Meilleurs vœux également à vous aussi. Bah, tiens, on va commencer avec vous, Gilbert Collard. Les chiffres des voitures brûlées, c'est comme les chiffres du chômage, on leur fait dire ce qu'on veut?
Bah, écoutez, non, mais d'abord, il est quand même consternant que l'on fasse... un palmarès des voitures brûlées. Quoi. C'est très significatif de l'état de déliquescence dans lequel se trouve notre société. Une voiture, 10 voitures brûlées, c'est insensé. Quoi. Je veux dire, comment a-t-on pu, au fil du temps, laisser s'installer ce phénomène à tel point que les ministres de l'Intérieur font de la concurrence déloyale dans les chiffres. Bon, là encore, on a affaire à une espèce de schizophrénie statistique, quoi. D'un côté, le critère, ce sont les mises à feu, alors que c'est pas un critère fiable, et on se rend compte que même si l'on s'en tient qu'aux mises à feu, il y en a 650, alors que l'an passé, il y en avait 602. Bon, donc, je vois pas comment, sauf à prendre les gens pour des idiots, on peut parler d'un phénomène contenu. On ferait mieux de dire la vérité et de reconnaître que cette pratique absolument insupportable, intolérable, continue. Et qu'il faut, une fois pour toutes, y mettre un terme. Il faut pas qu'il y ait une seule voiture qui brûle. C'est absolument inconcevable de voir qu'on peut l'accepter. Et qu'on l'accepte en faisant un concours de chiffres en plus. C'est ahurissant.
Xavier Offert, les chiffres des voitures brûlées, c'est comme les chiffres du chômage, on leur fait dire ce qu'on veut?
C'est un problème beaucoup plus vaste que celui-là. Les voitures brûlées, c'est une sorte de petit scénario habituel une fois par an, deux fois par an si on compte le 14 juillet. Mais il y a naturellement bien pire que cela. Ce sont les vols à main armée au quotidien, les braquages de petits commerces, les braquages de pharmacies, les braquages de cafés, les braquages de supermarchés de petite taille, etc., qui se multiplient partout en France, sur tout le territoire, et dont le gouvernement nous annonce aussi que ça va bien, que c'est contenu, alors que manifestement, ça n'est pas vrai. Je ne sais pas, dans un cas comme dans un autre, comment ils font leur compte, comment plus exactement ils les tripatouillent, mais il y a un problème général qui n'est pas réservé à la fois par an où on brûle des voitures dans une sorte de folklore débile, mais qui, tous les jours de l'année, tente à prouver que la criminalité des rues, c'est-à-dire le nombre de gens agressés dans les rues et surtout le nombre de vols à main armée, les braquages, c'est très important dans la vie criminelle, les braquages, vous savez. C'est un phénomène par lequel tous les voyous doivent passer à un moment ou à un autre. C'est à vrai dire le seul baromètre qu'on ait réel et réaliste de la vie criminelle. Et on peut à voir comment les choses se passent sur le terrain. Ce qui remonte vers nous est des statistiques du gouvernement. On peut penser qu'au quotidien, il y a des manipulations sur les chiffres à peu près équivalentes à celles dont on vient d'entendre parler hier à propos des incendies de voitures du Nouvel An. C'est un phénomène général.
Didier Martinez, vous êtes délégué régional du syndicat SGPFO Police pour l'Occitanie. Alors les chiffres des voitures brûlées, vous êtes au contact du terrain en tant que syndicaliste policier. Ça a brûlé à Toulouse, à Montpellier, un peu partout malheureusement. C'est comme les chiffres du chômage, on peut leur faire dire ce qu'on veut grosso modo.
Ben, les chiffres, hein, tout dépend de l'interprétation et de ce qu'on veut quantifier. Voilà. Aucun chiffre n'est fou pour coller précisément à la thématique de la question posée, mais le tout est de savoir qu'est-ce qui est quantifié. Donc effectivement, les mises à feu de véhicules ou l'ensemble des véhicules, ben, je crois qu'il faut de toute manière considérer l'ensemble des conséquences et des dégâts qui ont été posés. Vous savez, quand il y a un incendiaire l'été, quelqu'un qui met le feu à 1 cm² et dont on a une forêt entière qui s'embrase, on ne va pas s'inquiéter du centimètre carré. Donc pour les véhicules incendiés, il faut prendre la globalité de l'événement. Et en ce sens, il faut surtout, pour comparer d'une année sur l'autre, avoir la même base de données. Je crois qu'il est anormal tout de même de se baser la première année sur la globalité des chiffres et puis une année suivante uniquement les mises à feu. C'est un phénomène récurrent de toute manière depuis 15 ans. Chaque 1er janvier et globalement en janvier, quand les chiffres de l'année sont dévoilés, on assiste effectivement parfois à des adaptations, à des interprétations et les chiffres ne sont jamais réellement collés à la réalité.
Donc on leur fait dire ce qu'on veut. Parce que s'il y a eu 650 mises à feu cette nuit de la Saint-Sylvestre contre 602 l'an dernier, le nombre de voitures brûlées, qui ont donc brûlé par propagation plus les mises à feu, c'est 945 au total, a priori, Didier Martinez.
Voilà, c'est 945 au total, c'est-à-dire un petit peu plus que l'année dernière, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, le chiffre de 1000 est très frôlé, on va dire, hein, parfois dépassé, et l'important est tout de même d'endiguer le fléau, de ne surtout pas comparer site par site, car là, je crois que c'est l'aspect le plus négatif, hein, de comparer des villes entre elles, puisque ça ne peut que susciter de la surenchère. Néanmoins, au bilan national, c'est tout de même assez dramatique et force est de constater que depuis 15 ans, rien n'a endigué le phénomène et c'est ça le plus inquiétant et la question qui réellement est à se poser aujourd'hui.
Gilbert Collard, si on regarde les 4 derniers réveillons, il y avait eu 804 voitures qui avaient brûlé l'an dernier. Là, on était à 945. C'est ça, 945, 804 l'an dernier, 940 en 2015. C'est ça, 940 en 2015, 1067 en 2014 et 1193 en 2013. Ben finalement, depuis 2013, ça a quand même pas mal baissé, même si ça a augmenté par rapport à l'année dernière, mais c'est quand même marrant, enfin entre guillemets marrant, surtout pas pour ceux qui ont leur voiture brûlée, parler de nuit sans incident majeur, quand 945 voitures ont brûlé. On est dans la méthode Coué ?
Mais c'est un gouvernement verbal, vous comprenez. Bon, et je crois que quand on fera.
Et expliquez-nous ce qu'est un gouvernement verbal.
Mais quand on fera l'analyse de ce gouvernement, on dira il a été sonore. Bon, point. Voilà, sur les chiffres du chômage, c'est la même chose. On essaye de nous faire croire que le chômage diminue, alors qu'on est parfaitement au courant des procédés mécaniques qui servent à le diminuer d'une manière fictive. Mais ce qui, d'un point de vue criminologique, me préoccupe, c'est que on s'est laissé petit à petit s'installer dans l'habitude de cette criminalité festive, en quelque sorte. Je mets 1000 guillemets sur le mot festive, vous en doutez. Hein, bon.
Oui, c'est comme quand j'ai dit c'est marrant, hein, excusez-moi.
Mais on se comprend, hein, on se comprend. Bon. Et on est là, bras ballants, se disant oui, il y en a plus, il y en a moins. Mais même ce petit jeu statistique, politique, qui consiste à dire il y en a moins, il y en a plus, il y en aura moins, il y en aura plus. Mais c'est se foutre vraiment de l'individu, serait-il unique, qui voit sa voiture brûler parce que des cons ont envie de faire du dégât. Et qu'on s'en soit arrivé à ne pas pouvoir juguler ce phénomène en 15 ans, ça en dit très long sur l'état de potentielle dangerosité de notre société, puisqu'il n'y a rien de pire du point de vue criminologique, délinquentiel, que l'acte dit gratuit, qui ne l'est pas bien évidemment pour de toutes sortes de raisons psychologiques, et qui est une transgression fondamentale de nos lois. Il faudrait une sévérité exemplaire à l'égard de ces incendiaires. Et ça n'a rien à voir avec le pyromane, par exemple, hein, qui lui est un délinquant répréhensible à dimension pathologique. Non, là, on a affaire à des gens, des individus qui brûlent des voitures pour faire du dégât. Ils ont donc une envie de détruire, de détériorer et de faire du mal à autrui, à l'inconnu. Et ça, c'est d'une gravité inouïe parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune empathie à l'égard de qui que ce soit, et on frappe à ce moment-là dans l'anonymat le plus total, en se foutant pas mal des malheurs des uns et des autres.
Ça, c'est certain. Xavier Roffert, vous êtes criminologue, vous avez entendu les chiffres. Une soirée, je cite le ministère de l'Intérieur, sans incident majeur, 945 voitures brûlées. C'est de la méthode Coué ?
Bien sûr, mais en réalité, le problème est beaucoup plus grave et beaucoup plus fondamental que celui de, une fois de plus, le petit bout de la lorgnette. Il y a 800, 900 voitures qui brûlent un soir donné de l'année. Ça montre, les chiffres en question montrent, quand on va un petit peu dans le détail, quand on regarde de près, l'échec épouvantable sur les 30 ou 40 dernières années passer de ce qu'on appelle la politique de la ville, car bien entendu, les voitures ne brûlent pas n'importe où et n'importe comment. Et là où je me permets d'être un peu en désaccord avec Maître Collard, c'est que ce ne sont pas des actes gratuits. Vous allez dans les cités où les voitures brûlent, et les voitures des caïds, elles, ne brûlent pas. Nous y allons, j'y vais en tant que criminologue dans les cités en question. J'y rencontre des gens, je parle, et vous avez la Mercedes superbe qui brûle pas, parce qu'elle appartient à un caïd, et que tout le monde sait que c'est dangereux de s'en prendre à des caïds, mais les voitures des pauvres gens, de ceux qui n'ont peut-être pas d'autres moyens de transport pour aller le matin à leur travail, puisque naturellement l'autobus fait demi-tour à deux stations de la cité en question parce qu'il reçoit des cailloux ou pire, et donc les voitures en question ne brûlent pas au hasard et ne brûlent pas toujours.
Vous voulez dire que les voitures qui brûlent sont des voitures régulièrement ciblées ?
Bien sûr, évidemment, ce ne sont pas, en tout cas, que la...
Et ciblées selon quels critères ?
Eh bien, selon des critères qui visent à permettre à certains individus d'imposer la peur dans la cité où ils font leur trafic. C'est naturellement un des éléments majeurs du contrôle de certaines cités par des bandes de voyous et par des gangs qui se livrent à des trafics de stupéfiants pour des millions d'euros par mois. Vous avez sans doute le souvenir des deux policiers qui ont brûlé vifs dans leur voiture et qui ont failli mourir le 8 octobre dernier à la cité
Viry-Châtillon.
Viry-Châtillon, exactement, entre Viry-Châtillon et Grigny, à la Grande
et
Borne.
Et Grigny, exactement, la Grande Borne.
Quand je vous dis que la terreur règne, c'est qu'aujourd'hui, encore, c'était le 8 octobre et nous sommes aujourd'hui le 3 janvier, personne n'a été arrêté dans l'affaire en question. Vous voyez l'omerta.
Si, il y avait une personne qui avait été mise en... Il y a une personne qui a été mise en examen et écrouée.
Non. Ça n'est pas pour les faits eux-mêmes, c'est pour des faits de complicité qui sont assez loin du centre des faits.
Qui étaient liés à cette affaire, on va dire.
Les individus cagoulés qui ont mis le feu à la voiture en question eux-mêmes n'ont jamais été arrêtés.
Ah,
à l'heure actuelle, il n'y a aucune arrestation sérieuse et probante dans l'affaire en question. Ça fait 2 mois quand même et plus. Hein. Donc, ça veut dire une chose, c'est que si personne ne parle dans les cités en question, la loi du silence y règne. Et la loi du silence y règne parce que les gens ont peur. Et les incendies de voitures sont un des éléments, entre autres, de la façon d'impressionner les populations pour qu'elles se taisent quand la police pose des questions. Voilà
Didier Martinez. Didier Martinez, vous qui êtes policier, vous entendez ce que disent Gilbert Collard et Xavier Roffert. Ces incendies de voitures, c'est des incendies ciblés pour montrer qui est le patron, on va dire, dans les quartiers ?
C'est un des aspects évidents, hein, le règne de la terreur dans les quartiers.
On choisit de brûler la voiture d'un tel ou d'une telle ?
Je ne sais pas si les propriétaires sont identifiés et ciblés, mais en tout cas, les sites stratégiquement implantés, n'oublions pas que c'est très souvent aussi de telle sorte à organiser des guet-apens. Je veux dire que les mises à feu de véhicules ont toujours lieu sous des coursives ou dans des impasses devant des immeubles qui vont susciter à la fois l'attente des forces de police et de pompiers qui interviennent, et c'est l'occasion, l'opportunité de caillasser les effectifs intervenants, et je dois dire que ça suscite, et on le sait depuis ces derniers mois avec les manifestations policières, beaucoup de blessés dans nos rangs et une réelle exaspération des pompiers. S'agissant des statistiques, hein, Philippe, je me permettrai quand même d'éclairer un petit peu la composition de ces chiffres, parce que cette catégorie de population qui subit l'incendie de véhicules, hein, je regardais des statistiques ce matin justement, et les questions posées suscitent une interprétation particulière. Quand on demande par exemple combien de ménages au cours de l'année ont déclaré, ont signalé soit des dégradations, soit des incendies de véhicules, on s'aperçoit que la question posée, elle interpelle en ce sens que tous les faits constatés doivent absolument avoir été rapportés. Et quand on imagine que des gens ne sont pas assurés, soit au niveau des dégradations d'un véhicule ou de l'incendie, eh bien beaucoup ne sont pas tentés de perdre encore des heures de leur temps de travail pour aller dans un commissariat signaler la chose. Est-ce que je veux dire
et donc ils attendent que la carcasse de la voiture soit enlevée, ils vont même pas voir leur assurance, ils portent même, enfin ils annulent l'assurance, etc.
Voilà, pour certains il n'y a aucun signalement à l'assurance, mais pour des dégradations ou des délits subis par leur véhicule ou des biens matériels et propres, eh bien les gens ne perdent plus de temps davantage à aller le signaler, c'est-à-dire à s'identifier comme ayant subi un préjudice, et c'est ça qui fausse énormément cette donnée statistique où on croit tenir la totalité des faits qui se sont commis, alors qu'en réalité on est certainement à moins de la moitié de ces faits, parce que sortez de chez vous avec un rétroviseur cassé, si vous n'êtes pas assuré, ça n'est même pas la peine de le signaler à l'assureur, et encore moins d'aller perdre sa matinée au commissariat.
Et par contre, c'est votre patron Bruno Leroux, mais quand vous entendez parler de soirées sans incident majeur pour 945 voitures brûlées, on est dans la méthode Coué ?
On est dans la définition de l'incident majeur, j'imagine qu'il s'agissait de blessures, d'agressions avec violence. On a vu qu'il y a eu, dans l'Est par exemple, je relevais beaucoup plus de blessures avec l'usage de pétards, ces phénomènes interdits qui ont été autorisés au dernier moment, et on a eu beaucoup plus de blessures. Donc ça, c'est un événement particulier. Événement majeur, je pense que ça aurait été des blessures corporelles, des coups de feu, des agressions, voilà. Là, les véhicules brûlés, c'est banalisé. Malheureusement, c'est banalisé. Et je dois dire qu'on focalise beaucoup sur la nuit du Nouvel An. Mais ce que je voudrais dire, c'est que toutes les nuits, des véhicules brûlent.
On va en parler des stades, parce qu'il n'y a pas que la nuit du Nouvel An, on en parle énormément, on parle aussi de celle du 14 juillet. Mais je vais vous poser une question, Didier Martinez, et je vais poser la même à nos autres invités. Il se murmure que parmi les voitures incendiées à la Saint-Sylvestre, il y a pas mal d'escroqueries aux assurances. Est-ce que vous, le policier, vous pouvez confirmer ça ?
Non, je ne pense pas. Bon, le confirmer, j'en suis incapable, puisqu'ensuite, c'est les stats assurances et les sollicitations des particuliers. Mais vous savez...
Mais la police sait tout, on le sait.
Dans ces quartiers précisément, et on le sait, la catégorie de population qui est visée n'a pas forcément des belles voitures qui sont assurées, comme on dit, tout risque. Hein. C'est-à-dire que ce sont des véhicules qui, la plupart du temps, bien, vont être amenés à la casse, vont être renouvelés à bas coût, et les gens ne se font pas rembourser pour autant. Donc il y a dans le lot une infime partie d'escroqueries à l'assurance, et encore selon le site, je pense qu'il y a avoir des enquêtes des assureurs, mais globalement non, c'est vraiment gratuit, c'est vraiment le vandalisme, détruire pour détruire, et il y a très peu dans le lot d'escroqueries.
Gilbert Collard, vous qui êtes avocat, en plus d'être député, vous avez entendu parler de cas nombreux ou moins nombreux d'escroqueries aux assurances avec ces incendies de la Saint-Sylvestre ?
Non, moi écoutez, c'est vraiment un phénomène tout à fait marginal. Hein. Et je crois que c'est encore une manière d'essayer psychologiquement de diminuer la réalité des dégradations. Mais je voudrais revenir sur un point intéressant qu'a évoqué Xavier Hofer. Je parlais d'actes gratuits tout à l'heure et... Didier Martinez semble me rejoindre. Je veux dire qu'il y a à la fois l'acte gratuit, c'est-à-dire le vandalisme, pour exprimer une haine sociale, une haine de l'autre, qui devient un peu la loi, hélas, des banlieues. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un échec phénoménal de la politique de la ville depuis des années et des années, malgré une somme colossale qu'on y a appliquée. Et il y a aussi la volonté de faire régner l'idée que la violence peut s'abattre. Et ça, c'est la pire des choses. Parce que cela veut dire que on est dans un comportement qui est complètement mafieux. On organise une espèce de prévention par la terreur. Et c'est vrai que dans ces cités, on a laissé, et Dieu sait que les populations en souffrent, la loi de la terreur s'installer. On fait peur, on intimide. Mais en même temps, on a quelque chose sur lequel on doit vraiment réfléchir, parce que c'est très significatif de l'état explosif de notre société. Il y a une violence qui cherche des cibles parce qu'elles sont que des cibles. Et elle peut, cette violence, s'abattre sur n'importe quoi. C'est quasiment devenu un rituel de violence. Et on le retrouve pas seulement à propos de la Saint-Sylvestre, hein, on le retrouve un peu partout quand on se pose la question, mais pourquoi ont-ils fait cela ? Alors bien sûr, c'est un moyen mafieux de montrer qu'on est les patrons, qu'on est les plus forts. on a la violence au bout des poings, et parfois c'est aussi l'expression d'une haine absolue, et malheureusement, les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure et n'ont pas appliqué le courage nécessaire pour y mettre un terme. Et ça, c'est gravissime parce que c'est une espèce d'encouragement au passage à l'acte qui ne fait que se reproduire un peu partout contre des policiers, contre des pompiers, contre des ambulanciers. Allez me dire quel intérêt ça représente d'un point de vue criminologique
d'aller frapper
des policiers, des pompiers, des ambulanciers. Bon, on est dans une société qui a laissé s'installer l'évacuation de la haine par la violence.
Nous allons faire une petite pause et puis vous continuez de nous appeler au 0826-300-300. C'est le standard de Sud Radio jusqu'à midi. C'est le grand référendum avec cette question que l'on vous pose. Voiture brûlée du Nouvel An, faut-il croire aux chiffres du gouvernement? Le standard est aussi sudradio.fr. A tout de suite.
Sud Radio.
Le grand référendum. 11h midi.
Philippe David.
Comme chaque jour, une question. Un grand référendum, vous avez une heure pour répondre, enfin là il y a un peu moins d'une heure évidemment puisque c'est jusqu'à midi, les voitures brûlées du Nouvel An, faut-il croire aux chiffres du gouvernement? Vous avez encore une grosse demi-heure pour donner votre avis sur la question sudradio.fr et 0826-300-300 sur internet, ça donne quoi Claire?
Eh bien on a un commentaire de Lozère48 sur Sud Radio qui nous dit: si notre gouvernement n'a rien d'autre à faire que des comparatifs et des sondages débiles, mieux vaut les mettre au chômage technique. À quand leur sondage face aux bêtises faites ou dites? Bonne année à toute l'équipe. Également un commentaire sur Facebook de Grégory qui nous dit: ce gouvernement ment sans honte et Leroux, après avoir menti sur son CV, là il nous prend vraiment pour des idiots. Et vous voulez les vrais chiffres de délinquance en France? Il faut lire La France Orange Mécanique qui, je le précise, a
le
été
livre
préfacé,
de Laurent Berton.
Voilà, est préfacé par Xavier Roffer.
Le vote des internautes, ça donne quoi?
Eh bien, vous êtes 74% à dire non, il ne faut pas croire aux chiffres du gouvernement.
Merci.
C'est-à-dire une large majorité. Xavier Roffer, avant de rebondir sur ce qu'ont dit les internautes, ces escroqueries aux assurances, c'est fréquent ou pas dans les incendies de voitures au Nouvel An?
Ça porte sur des catégories de voitures assez limitées et sur des territoires qui ne sont pas ceux dans lesquels d'usage les voitures brûlent. Les escroqueries à l'assurance automobile, c'est à la campagne où il n'y a pas de cité, et c'est dans les cités que les voitures brûlent, et c'est sur des types de voitures qui ne sont pas concernées, c'est-à-dire celles des gens les plus misérables, des voitures qui ont 10 ans, 15 ans, etc.
Et c'est 20 ans, voire.
Voilà, c'est celles qui brûlent. Je voulais vous dire deux choses qui sont importantes pour la bonne compréhension du phénomène. D'abord, et j'y insiste, ces actes-là visent au contrôle d'un territoire. Ils sont délibérés. Il s'agit pour des individus et on les connaît généralement, enfin on les connaît criminologiquement, on peut les décrire de manière assez précise, qui visent à contrôler sur un territoire donné, c'est-à-dire un quartier ou une cité, le monopole des actions illicites, c'est-à-dire le trafic de petites quantités de stupéfiants, les marchés aux voleurs, les désossages des voitures et des fois des actes d'hébergement de clandestins et des actes visant aussi au travail illicite et aux marchands de sommeil. Vous savez, des gens qui défoncent des appartements et qui laissent des gens rentrer dedans dormir et qui les font payer à la nuit des sommes exorbitantes. Voilà, et qui les raquettent. Donc, il s'agit de ça. Il s'agit d'obtenir le monopole des actions illicites sur un territoire donné, la plupart du temps. Alors, je veux bien qu'ils détestent X ou Y et la société entière, mais au bout de ces opérations, y compris la plupart des incendies de voitures, il y a des intérêts financiers et il y a beaucoup d'argent. Je voulais attirer votre attention sur un autre phénomène. Voilà peut-être 12 ou 15 ans, j'ai plus la date précise en tête, un avion de transport est tombé sur une tour, un peu semblable à une tour de HLM, dans un quartier d'Amsterdam où il y avait
C'était un 747 Cargo d'El Al, c'était au début des années 90.
Voilà.
En 91 ou 92 à peu près de mémoire.
De mémoire, ça doit être ça. Hein. Et le phénomène extraordinaire, c'est qu'une fois qu'on a déblayé les décombres, un tiers des cadavres, des corps, n'a jamais été demandé. Et on a vérifié qu'il s'agissait de clandestins. Alors ça a donné l'idée qu'il y ait cette extraordinaire quantité de clandestins dans un immeuble d'un quartier un peu semblable à nos cités en France a donné l'idée à des sociologues, à des criminologues, à des gens, à des statisticiens de faire des recherches. Et on s'aperçoit des fois que pour certaines cités de banlieue, où il y a des certaines villes de banlieue, où il y a les fameuses cités qu'aimablement le gouvernement appelle quartiers populaires, mais qui sont populaires comme l'Allemagne de l'Est était une démocratie populaire, à savoir que si tout le monde le pouvait, il en foutrait le camp.
Et donc, ou la Corée du Nord, qui est la République démocratique populaire voilà, de Corée.
Alors ben voilà, les quartiers populaires sont populaires comme ça. On s'aperçoit des fois que quand on fait des comptages de la population précis et qu'on compare avec les statistiques officielles, il y a plusieurs milliers d'individus de différence, c'est-à-dire que là-dedans, il y a des gens qui ne sont simplement pas déclarés, mais il y a aussi des clandestins. Quand vous avez des gens qui habitent en France clandestinement, vous imaginez-vous qu'ils vont faire déclarer leur voiture et qu'ils vont l'assurer? Évidemment non. Donc, on est dans un système de cités hors contrôle, dans lesquels, à vrai dire, le gouvernement ne sait plus bien ce qui se passe, et depuis des années, c'est pas un phénomène qui date de la présidence de M. Hollande, c'était déjà le cas avant, c'est déjà le cas dans certaines cités de la région parisienne depuis une trentaine d'années.
Il y a 30 ans.
On ne sait pas ce qui s'y passe, hein, voilà. Et donc, là-dedans, vous avez un certain nombre de phénomènes, comme les trafics de stupéfiants, et également des phénomènes visant à la protection de ce système. J'insiste, hein, entre le Maroc et la France, ce sont des millions d'euros qui sont transportés tous les jours de cannabis et de résine de cannabis par jour. C'est des dizaines de millions d'euros par an, et ce sont de gros marchés, et on les protège en faisant régner la terreur, en imposant le silence à la population, et en faisant en sorte que le préfet où le commissaire de police regarde ailleurs, parce qu'autrement il va avoir une émeute et qu'il va se faire engueuler par la suite. Voilà la réalité des choses.
Ce qui est terrible. Didier Martinez, vous êtes délégué régional du syndicat SGPFO Police pour l'Occitanie. Les incendies de voitures pour la Saint-Sylvestre, c'est même une exception française, on peut dire ça comme ça, mais il n'y a pas qu'à la Saint-Sylvestre que les véhicules brûlent.
Voilà, le phénomène, il est récurrent, il est quasi quotidien. Il faut dire que les véhicules incendiés, alors je vais vous donner les chiffres de Toulouse, hein, globalement, depuis plusieurs dizaines d'années, c'est jusqu'à 1000 véhicules au cours de l'année qui sont incendiés. Ces chiffres sont communiqués au début du mois de janvier par la préfecture, et là aussi, ils ont par le passé suscité le fait de considérer ou pas la propagation d'incendies à d'autres véhicules. Néanmoins, c'est quand même extraordinairement quantifié, plus de 1000 voitures qui brûlent sur une ville à l'occasion de nuit. Alors, le mode opératoire, la plupart du temps, ce sont des véhicules qui sont volés, qui servent à faire des rodéos, voire à commettre des larcins, et ensuite, ils sont retrouvés calcinés, et ils sont ensuite détruits. Donc, ce que je veux dire, c'est que le phénomène...
Voire parfois, je vous coupe, ils servent de barbecue, comme on dit dans la région de Marseille, pour brûler quelqu'un à titre de règlement de compte.
Dans le pire des cas, voilà, ça peut être ça aussi. Ce que je veux dire, qu'ils sont dérobés dans un premier temps par des individus souvent mineurs, en tout cas qui n'ont rarement le permis de conduire ou qui sont très difficiles à identifier. Et ces véhicules sont tout aussi difficiles à stopper et à intercepter. Parce que un véhicule volé, comprenez bien qu'il peut prendre tous les risques. Il peut prendre la fuite, heurter des trottoirs, des dodanes, alors que les véhicules de la police, je rappelle que globalement dans la police, c'est des kangous que nous avons. Et pour prendre en chasse et tenter d'intercepter...
Qui sans dénigrer Renault ne sont pas les meilleurs véhicules pour courser des go fast. D'accord, avec voilà. Un kangou, c'est compliqué.
Mais non seulement les GoFast, mais même les véhicules basiques avec l'équipement lourd actuellement dans les voitures de police. Vous savez qu'on a les bouquets, les gilets, les casques. Enfin, c'est extrêmement chargé et très lourd. Très compliqué pour les forces de l'ordre qui, je dois dire, sont un peu désemparées et désabusées devant le phénomène et impuissants surtout parce qu'il est compliqué de prendre en chasse, comme on dit, des véhicules dans les cités, hein, surtout en soirée ou en fin d'après-midi. Et forcément, eh ben, c'est enlever des épaves la plupart du temps et une réelle frustration, en tout cas une impuissance avérée des forces de l'ordre par rapport à ces phénomènes précis quant aux voitures.
Gilbert Collard, vous avez entendu Didier Martinet, vous êtes député Rassemblement Bleu Marine du Gard, vous êtes avocat. Les incendies pour la Saint-Sylvestre, c'est malheureusement une exception française, mais il n'y a pas qu'à la Saint-Sylvestre. Vous avez entendu Didier Martinet, à Toulouse, 1000 véhicules par an. C'est énorme, ça fait 3 véhicules par jour.
Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. On ne peut qu'y souscrire. Hein. Mais ce que je voudrais, si vous voulez, c'est aller au-delà de l'apparence criminologique sur deux points. D'abord, étudier la répression de ces faits. Elle est quasi inexistante. Vous verrez, si on attrape un ou deux incendiaires, les peines seront tout à fait symboliques.
Hein. C'est-à-dire
ça sera 6 mois de prison avec sursis, par exemple, hein, dans le plus méchant des cas. Parfois, quand on a affaire
même
à...
Même en récidive
Oui, parfois. parfois ça peut être un peu plus lourd en récidive, mais c'est rarement, très rarement le cas. Et ça, c'est quand même, c'est très significatif d'une acceptation.
Par contre, Gilbert Collard, vous qui êtes avocat, combien est-ce qu'on risque théoriquement en peine maximale pour l'incendie volontaire d'un véhicule ?
Ah ben ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison, hein. C'est une peine. Mais maintenant, on a la contrainte pénale qui s'applique à tous les délits. Donc, on est entré dans une phase nouvelle, hein. C'est que un incendiaire peut parfaitement bénéficier aujourd'hui, un incendiaire de voiture, de la contrainte pénale. Et puis, c'est quand même pas rien de le dire ça. Aujourd'hui, la contrainte pénale s'applique à tous les délits.
Vous pouvez expliquer ce qu'est la contrainte pénale, que vous êtes avocat et juriste, ce sera fait par un professionnel.
La contrainte pénale, c'est l'aménagement de la peine avec une période pendant laquelle ça ressemble très, très étrangement au sursis. Du reste, on comprend pas pourquoi on a fait ce doublon, hein, avec des peines qui sont tout à fait subsidiaires, qui sont des peines sociales, des peines d'engagement social.
Travaux d'intérêt généraux.
Si vous voulez, la solution, c'est d'éviter la prison. Voilà, on trouve une solution pour éviter l'incarcèrement. L'idée au départ, c'est comme on n'a pas de place, quand quelqu'un mériterait d'aller en prison, on évite de l'y envoyer. Bon, voilà. Donc, ça crée quand même une espèce de légèreté pénale qui est tout à fait favorable à la commission d'actes aussi graves.
Grave.
Et derrière cela, sans vouloir appeler au secours Bachelard, hein, qui a été le grand théoricien du feu, hein, d'un point de vue psychanalytique presque, hein, ils mettent le feu, c'est très significatif de ce qu'ils veulent faire, ils mettent le feu, c'est-à-dire que ce sont des individus qui veulent embraser la société. Alors je suis d'accord avec Xavier Hofer, hein, quand il dit que c'est une volonté de mettre la main sur un territoire, c'est une volonté d'imposer sa loi, mais quand on voit le nombre de véhicules volés et brûlés, ou pas volés mais brûlés, notamment à Toulouse, 10 000, on ne peut pas considérer que tous les véhicules brûlés... Ah, c'est ça, hein, je ne me trompe pas.
1000,
excusez-moi. On ne peut pas considérer que tous ces véhicules brûlés l'ont été pour des raisons d'affirmation sur le territoire d'une autorité mafieuse. C'est certainement vrai en proportion, mais ce n'est pas vrai pour la totalité. Il y a vraiment des actes qui sont des actes de délinquance à signification très violente. C'est quasiment la volonté de dire on peut embraser, on peut mettre le feu à la société. Et je trouve complètement ahurissant que les pouvoirs publics n'aient pas donné aux policiers depuis 30 ans les moyens en effectif de réprimer cette délinquance qui est un passeport pour une délinquance plus grave, qui est comme un baptême du feu, si je peux me permettre l'expression.
Xavier Hofer, vous avez entendu Didier Martinez, vous avez entendu Gilbert Collard. Les peines encourues, c'est maximum 5 ans de prison. Et Gilbert Collard dit avec la contrainte pénale de sursis, il n'y a pratiquement aucune peine.
C'est à peu près l'impunité assurée. S'ajoute à ça naturellement...
Surtout si on est mineur.
À tous les coups si on est mineur, évidemment. Mais même pour les adultes, quand on met le sursis, la contrainte pénale et le fait que des fois des gens sont condamnés à de la prison ferme mais qu'ils ne sont pas arrêtés à la sortie de l'audience, on les laisse rentrer chez eux et on leur dit, écoutez, quand on aura une place en prison, on vous convoquera. La déperdition, la justice française à l'heure actuelle ressemble à un tuyau, vous savez, les tuyaux qui vous apportent de l'eau à votre robinet, mais qui perdrait 90% de la flotte entre la source et puis le robinet, quoi. Hein, c'est ça la justice à l'heure actuelle, et surtout après le passage de Mme Taubira qui n'a pas fait un bien fou à la fermeté judiciaire, pour dire les choses gentiment. Alors le fait est qu'aujourd'hui les actes de délinquance ou de petite criminalité des rues sont dans notre pays à peu près à 90% impunis, quoi. Alors la justice nous dit mais c'est pas vrai, mais on a des statistiques, les chiffres en question encore une fois sont biaisés, et notamment pour les actes graves, parce que théoriquement c'est jusqu'à 30 ans de prison et jusqu'à 200 000 euros d'amende, que sont les vols à main armée. Il y a un travail énorme de déqualification, c'est-à-dire qu'on a des vols à main armée qui sont transformés en vols avec armes, et ça passe de crime à l'infraction d'en dessous à délit, etc. Et donc, il y a une espèce d'érosion judiciaire constante. On fait sortir sans arrêt des actes criminels ou délinquants de la catégorie où ils sont pour les mettre à la catégorie en dessous. Et après ça, les malfaiteurs. Vous savez, nous, on y va dans les cités, on parle à des gens. On a affaire à des... Ils aiment bien les criminologues parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à nous dire. Vous savez, je serais professeur de physique nucléaire, ils n'auraient pas grand-chose à me dire, mais là, ils ont des choses à nous dire. On va les voir et disent, oh, on t'a vu à la télé, c'est vrai que t'as vu des mafieux, etc. Bon, on a des choses à se dire. Et quand on leur parle, on parle à des jeunes de voyous qui sont des fois des criminels endurcis alors qu'ils ont 19 ans ou 20 ans, braqueurs, etc., qui nous disent, mais c'est des bouffons. Mon frère, tu sais ce qu'il avait fait? Il s'est retrouvé au tribunal, il est sorti, il avait les mains dans les poches. Les principaux intéressés eux-mêmes, on parle pas de petits voleurs de voitures, on parle de gens qui font bien pire, ne comprennent pas, sont abasourdis par l'espèce d'impéritie totale de la justice qui distribue des peines fictives la moitié du temps et qui, l'autre moitié du temps, évite même de les distribuer. Quoi. On n'est pas dans un système qui fonctionne très bien à l'heure actuelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde sait qu'il y aura des élections présidentielles au printemps prochain. Le poste le plus difficile pour tout futur gouvernement, quel qu'il soit, ce sera celui de ministre de la Justice. La justice française, à l'heure actuelle, est en ruine. Alors, bon, les incendies de voitures, c'est naturellement grave. Je vous rappelle qu'il y a 40 ou 50 ans de ça, incendie volontaire en France, dans le code pénal de l'époque, c'était la peine de mort.
C'était Napoléon qui l'avait mis, d'ailleurs. Voilà. C'était Napoléon qui l'avait mis contre les gens qui incendiaient les forêts.
Exactement. Et déjà dans le Var, à l'époque. Hein, voilà.
Dans le Var, exactement. C'était donc, suite à de nombreux incendies de forêt dans le Var. Napoléon avait fait mettre la peine de mort dans le code pénal pour les incendiaires. Je vais faire réagir Didier Martinez. Didier Martinez, vous qui êtes policier, vous confirmez que on risque 5 ans de prison pour un incendie de voiture, mais ceux que vous arrêtez, quand vous en arrêtez, qui mettent le feu à des voitures, c'est plutôt 6 mois avec sursis et circuler, rien à voir.
Et parfois moins, oui, voilà, effectivement. C'est le drame de la police, effectivement, de retrouver dans le même site eh bien, les mêmes protagonistes. C'est-à-dire que ce fameux noyau dur, il y a 15 ans, on nous parlait de 200, 300 individus, il est passé à des milliers, et à présent, mettre hors d'état de nuire des individus qui veulent justement nuire à la société et à autrui, c'est l'aspect le plus compliqué de notre travail, car on est confronté aux mêmes personnes qui, une fois remis en liberté récidive, sont interpellées à nouveau. C'est usant, c'est vraiment frustrant. Et rappelons qu'il y a un an et demi de ça, la police nationale manifestait sous les fenêtres de la chancellerie, justement par rapport à cette légèreté de la réponse pénale dans les actes à la fois de délinquance et de criminalité. Quant au volume des statistiques et à leur interprétation, je veux dire que le ministère, il use de beaucoup d'astuces et de ficelles, en tout cas par rapport aux chiffres qui sont donnés. Une anecdote pour Toulouse, vous allez bien comprendre le phénomène. Il y avait ça remonte à 7-8 ans, des violences urbaines, c'est-à-dire des jets de projectiles sur les voitures de police la nuit. Et comme nos collègues en signalaient 4 ou 5 par nuit, ça gonflait énormément les statistiques et on leur a ordonné à chaque occasion où le véhicule était impacté par un caillou de faire un constat amiable. Oui, vous m'entendez bien. Ils devaient, dès lors qu'ils avaient un impact sur le véhicule, faire un constat amiable. Mais imaginez ces collègues qui, à l'issue de leur nuit, à 5 heures du matin, devaient remplir le nom, prénom, l'assurance, faire un croquis, faire un schéma, détailler les circonstances, c'est-à-dire faire un constat amiable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben dans les semaines qui ont suivi, ils n'ont plus déclaré les jets de projectiles et les statistiques se sont effondrées. Il n'y avait plus de violence urbaine par jet de projectiles à Toulouse pendant quelque temps, bien entendu, puisque notre organisation a très vite levé le lièvre, si vous voulez. Mais c'est la manière de vous dire que ces astuces et ces subtilités, elles existent et on peut faire orienter les chiffres et les statistiques comme on veut en fonction de l'impact et des instructions qui sont données.
Ça s'appelle la méthode Coué en version toulousaine, ma chère Sophie.
Jusqu'à midi, mon cher Philippe, on parle de ces voitures brûlées du Nouvel An. Faut-il croire aux chiffres du gouvernement? C'est la question du grand référendum sur Sud Radio. Vous vous manifestez, vous appelez pour passer en direct sur l'antenne au 0826 300 300 et vous laissez vos commentaires également sur sudradio.fr où vous pouvez répondre par oui ou par non à cette question. À tout de suite.
Sud Radio.
Le grand référendum. 11h midi.
Philippe David.
Philippe David et ses invités pour ce grand référendum avec, comme d'habitude, une question. Voiture brûlée du Nouvel An, faut-il croire aux chiffres du gouvernement? Ça se passe au standard de Sud Radio si vous voulez intervenir. 0826 300 300 et bien sûr via notre site internet sudradio.fr, surveillé par Claire.
Oui.
Ça rigole pas là, il y a Claire là. la chef de l'internet. Et oui. Elle a sa cravache.
La chef Tain.
C'est mon Martinet. Écoutez.
À l'ancienne.
Faut-il croire aux chiffres du gouvernement concernant ces voitures brûlées du nouvel an? Eh bien non, vous êtes 76% à dire non. Également un commentaire du général de Gaulle. Ça faisait longtemps que je
n'avais général.
Pas bonjour,
croisé.
Général de Gaulle, meilleur vœu.
Il nous met hallucinant. On se pose la question de savoir si les chiffres sont crédibles, entre guillemets. Le vrai scandale, c'est qu'on laisse des voitures tout simplement brûler en France.
Ça, c'est une vraie question. On va parler d'ailleurs avec ce qui se passe à l'étranger. Pardon. Gilbert Collard, vous êtes député Rassemblement Bleu Marine du Gard et avocat. Je vais vous poser une question polémique. En 2007, c'était Nicolas Sarkozy qui était président. Il y a eu 46 032 véhicules brûlés en 2013, parce que j'ai pas trouvé les statistiques après. Didier Martinez nous le confirmera d'ailleurs. Il y avait eu 34 441 véhicules brûlés, c'est-à-dire, 12 000 de moins que quand la droite était au pouvoir. Est-ce que finalement la droite fait quand même pas mieux ou moins mal que la gauche dans ce domaine?
Oh, mais je crois que c'est vraiment cette espèce de concurrence dans les malheurs que subissent nos concitoyens, j'ai pas envie d'y entrer parce que je trouve que c'est le degré zéro de la politique. Hein. Ce qui me paraît plus intéressant quand même, c'est de voir à quel point il y a un décalage entre la pénalité et l'application de la pénalité. La pénalité, dans la pratique, comme on m'a dit, c'est maximum 5 ans, alors qu'on peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Donc les députés, quand ils ont voté les textes, ont considéré qu'incendier un véhicule, c'était quelque chose de grave. Et dans la réalité, qu'est-ce qu'on voit? On l'a dit tout à l'heure, des peines qui sont quand même très légères. Bon, on pourra regarder la jurisprudence, mais le maximum, sauf erreur de ma part, que la sanction puisse exprimer, ça ira pas plus loin que 5 ans, mais dans des cas dramatiques. Hein. Le simple incendiaire d'une voiture, il va pas s'en tirer avec une peine très sévère. Pourquoi ce décalage? Pourquoi? Pourquoi vote-t-on des lois qui ne sont pas appliquées?
Mais parce que c'est peut-être un mal français, les lois qui ne sont pas appliquées aussi.
Les lois, nous les avons. Ce qui manque, c'est le courage de les appliquer. Les lois, nous les avons. Ce qui manque, c'est la fermeté et le courage de les appliquer. Tant qu'on n'aura pas le courage d'appliquer les lois qui ont été votées, en tenant compte bien sûr des circonstances, hein, il ne s'agit pas de faire du systématisme ou de la mécanique pénale, on n'aura pas de recul de la délinquance. On vote des lois, elles ne sont pas appliquées. Pourquoi? Mais pourquoi?
Ah, ça, c'est une vraie question, parce qu'on avait fait une émission il y a quelques temps, la France c'était un seul contre tous, il y a un an et demi, la France est le pays où il y a le plus de lois non appliquées. Xavier Roffert, vous êtes criminologue, comme vous entendez ça, 46 032 véhicules brûlés en 2007, 12 000 de moins en 2013, la gauche fait finalement mieux que la droite?
Ou peut-être qu'elle a trouvé un moyen d'arranger les chiffres de façon à ce que, passant d'un type de statistique à un autre, on arrive à l'érosion judiciaire dont je vous parlais. Je voulais insister sur deux points. Le premier point, c'est celui des, pour insister bien, parce que c'est fondamental, les endroits où ça se passe, les quartiers où ça se passe, les sites. Les quartiers chauds, vous savez, les cités hors contrôle, etc. Dans les cités en question, toutes les administrations, et vous pouvez demander la confirmation à Monsieur Martinez, disposent d'une carte. Alors, c'est les postiers, ils ont ça, les réseaux de transport en commun, ils ont ça, même les pompes funèbres ont ça, où c'est pas possible d'aller. C'est-à-dire, il y a des quartiers en France où on ne peut plus aller distribuer le courrier, où on ne peut plus aller faire rouler les autobus parce qu'ils sont caillassés sans arrêt, et même, et c'est encore
voir
plus grave,
incendier.
Et là ça montre quand même une dimension idéologique, des quartiers entiers ou des cités entières où on ne peut plus faire rouler un corbillard dès lors qu'il a une croix dessus, où ils sont immédiatement caillassés. Vous voyez à quel point les choses sont quand même préoccupantes en matière de sécurité publique, et un des aspects de cette absence de sécurité, c'est naturellement l'impunité quand on incendie des voitures, acte qui est en théorie prévu de sanctionner. Par plusieurs années de prison ferme. Maintenant, vous avez posé la question tout à l'heure, l'étranger. Ce qui se passe en France, notamment ces quartiers hors contrôle...
Alors, attendez, vous permettez, je vais donner des chiffres au Royaume-Uni. En Royaume-Uni, en 2003, il y avait 63 000 véhicules incendiés, donc plus qu'en France, nettement plus qu'en France. On était à 46 000 en 2007 et c'était le record, donc près de 20 000 de plus, 17 000 de plus en 2003. Le nombre est baissé à 30 000 en 2007 pour être en 2013 sous le seuil des 10 000. C'est-à-dire qu'on a divisé par 6, par 7 même, le nombre de véhicules brûlés. Par contre, la différence, c'est qu'en Angleterre, c'est systématiquement la prison pour incendie de véhicules. C'est pas ça la bonne méthode ?
Vous avez répondu à la place du criminologue. C'est évidemment la prison, c'est l'acte de prévention le plus efficace, parce que comme personne ou pas grand monde a envie d'aller en prison, quand vous sanctionnez une personne, vous en dissuadez 10. Et pour le reste de l'Europe, de tels actes sont inouïs. Quand vous avez, par exemple, en 2005, la vague d'incendies de voitures qui se promènent
dans
toute la France, voilà, les émeutes qui se promènent
dans la France. De l'automne 2005.
Si vous lisez à ce moment-là le Times de Londres ou la Frankfurter Allgemeine en Allemagne, vous vous apercevez qu'il y a des reportages par page entière sur ce qui se passe chez les Français, comme si c'était en Papouasie-Nouvelle-Guinée. De tels actes sont inouïs dans le reste de l'Europe. Inouïs, ça n'arrive pratiquement jamais. Il y avait une différence avec le reste de l'Europe continentale, le cas de la Grande-Bretagne, parce qu'il y avait des quartiers un peu semblables aux quartiers hors contrôle en France, et dès qu'il y a été mis bon ordre, eh bien, en même temps que la criminalité générale, c'est-à-dire en même temps que les braquages, en même temps que les cambriolages, en même temps que les agressions, vous avez eu, pendant les 12 ou 15 dernières années, les 12 dernières années exactement, une forte baisse de la criminalité à peu près partout en Europe, sauf en France. La France, à l'heure actuelle, se singularise par l'importance de la criminalité et de la délinquance des rues par rapport à ses voisins européens. À peu près partout, même en Espagne, même au Portugal, ça baisse. Même en Italie, à l'heure actuelle, et là où ça se maintient...
Alors qu'il y avait des banlieues très difficiles en Italie.
Mais évidemment. Et alors que vous avez partout ailleurs en Europe des circonstances sociales qui sont à peu près les mêmes, c'est le bonheur pour personne en Europe. En ce moment, on est dans une crise depuis 2008, et on le sait très bien. Mais malgré tout, la criminalité baisse, et le seul endroit où elle stagne à un niveau très élevé, c'est la France. Alors, vous avez un gouvernement qui dit « Oui, mais ça stagne à un niveau. » Mais alors, si vous prenez une vallée dans laquelle il y a une inondation, si ça stagne au niveau de la cheville, tout va bien. Si ça stagne au-dessus de votre tête, tout le monde est noyé. Quoi. Voilà. Oui, donc, stagnation à un niveau élevé, c'est grave et c'est dangereux. Quoi.
Gilbert Collard, vous avez entendu ça, au Royaume-Uni, on était à 63 000 véhicules incendiés en 2003. On est à moins de 10 000 aujourd'hui. Par contre, prison systématique. C'est nos amis britanniques qui ont raison ?
C'est exactement ce que je viens de vous dire. Enfin, on n'arrive pas à voir la gravité de la situation. On est dans une espèce de distorsion phénoménale entre les lois qu'on vote et la manière dont on les applique.
C'est-à-dire qu'en Angleterre, on applique les lois.
Mais voilà, et encore une fois, ça a l'air basique ce que je dis, mais ce qui manque, c'est le courage. Le courage de prendre les mesures qui s'imposent. Alors bien sûr, ça va donner un aspect très répressif, mais comment faire ? On va attendre quoi ? Que la société qui est déjà à feu et à sang ne soit plus qu'à 100 ? On se rend compte d'année en année que la délinquance, la criminalité ne régresse pas. Tous les ans, le 1er janvier, on fait les comptes, tant de voitures brûlées, comme si c'était des bougies qu'on mettait sur un gâteau. Bon. Et puis on passe à autre chose, M. Leroux est content, les statistiques sont biaisées, on prend en considération les mises à feu et non pas les incendies. Mais derrière tout cela, derrière ce cinéma, il y a des hommes, des femmes qui le matin se lèvent et ont la bagnole brûlée. Et ça a des conséquences terribles pour eux, parce que ça devient un parcours complètement contraignant d'obtenir le remboursement, de faire jouer l'assurance, et pendant le temps où le véhicule incendié n'est pas remboursé, on est à pied.
Et souvent, ceux qui ont la voiture brûlée ne sont pas les gens les plus nantis, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et en plus, ce ne sont pas les gens les plus nantis, c'est le moins qu'on puisse dire, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir le courage dans ce pays ? En définitive, on est dans une espèce de distorsion dramatique entre la volonté populaire qui vote des lois et les tribunaux qui ne les appliquent pas. Alors pour des tas de raisons compliquées, il ne s'agit pas de faire le procès des magistrats, mais quand on initie la contrainte pénale dont on parlait tout à l'heure, on donne un signal très fort aux magistrats pour que la première sanction ne soit pas la prison. Les magistrats aussi vivent dans une société qui les contraint psychologiquement, sociologiquement. Bon, quand vous pensez que maintenant, la plupart des délits peuvent bénéficier de la contrainte pénale. Vous vous rendez compte du signal qui a été donné? Alors si on était dans une société idyllique, moi je voudrais bien, ou une société où tout irait bien, où l'harmonie régnerait, où le vivre ensemble serait une valse de Vienne. D'accord, mais on est quand même dans la barbarie maintenant.
On n'est pas vraiment dans les valses de Vienne, c'est clair. Voilà. Didier Martinez, vous avez entendu, Royaume-Uni, 63 000 véhicules brûlés en 2003, moins de 10 000 aujourd'hui. La différence, prison automatiquement. Vu ce que vous nous avez dit, comme Gilbert Collard et Xavier Offert, c'est peut-être la méthode britannique qui est la bonne.
Tout a été dit, vous savez, tout réside dans la dissuasion. L'impunité actuelle dont bénéficient les délinquants, cette façon de brûler des voitures, de commettre des exactions, des agressions, les vols, tout ce qui peut se passer, à la fois dans les cités mais aussi dans les centres-villes. Cette impunité qui exaspère les policiers et qui donne lieu à cette absence de dissuasion qui fait que ça ne fait qu'empirer, et régulièrement on s'aperçoit de l'augmentation constante à la fois des vols violences, de cette insécurité que les gens accordent beaucoup d'intérêt à l'intégrité physique de leur personne. Vous savez, les coups, les blessures, craindre pour sa vie. Ce phénomène ambiant qui ne cesse de monter en puissance, il est lié directement à ce phénomène. Je crois que la première des choses, c'est de donner le signal qu'il y a des prisons, il y a des places en prison et que les peines, lorsqu'elles sont prononcées, elles sont réellement exécutées. Car il n'y a rien de pire que de condamner quelqu'un à la prison et de lui dire, il n'y a pas de place et tu ne vas pas y aller. C'est pour ça qu'on a assisté parfois à des peines de substitution ou à des peines où on préférait avoir une certaine légèreté dans la sanction plutôt que subir l'humiliation ou le contresens de dire vous avez une peine de prison et vous ne pouvez pas la faire. Ce signal-là, il n'y a rien de pire envers la délinquance.
Didier Martinez, pour une dernière réaction très courte, la Grande-Bretagne, c'est un pays fédéral avec 58 polices différentes où les chefs de police rendent des comptes à la population et se présentent au suffrage des administrés. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce domaine, revenir à la police de proximité ?
La police de proximité, ça a été une réussite dans son départ, dans la mesure où on avait réussi à dans chaque quartier, mettre des policiers en contact, en confiance avec les acteurs, avec la population, les commerçants, ces gens, les directeurs d'école, les concierges, ces gens qui donnaient de l'information et qui permettaient d'anticiper. Nous étions dans une situation où les événements, nous les maîtrisions. Et ça commençait à porter ses fruits jusqu'à sa destruction en 2003. Sauf que, à l'heure actuelle, où on parle de criminalité et même de terrorisme, je peux vous dire que cette proximité, elle fait cruellement défaut, car elle commençait à porter de réels fruits et un réel projet de vaincre cette délinquance et d'être en capacité de ne pas subir, mais d'anticiper les événements. Et aujourd'hui, le constat, il est là.
Merci beaucoup Didier Martinez. Je rappelle que vous êtes délégué régional du syndicat SGPFO Police pour l'Occitanie. Merci beaucoup Xavier Offert. Je vous rappelle que vous êtes criminologue. Merci beaucoup Gilbert Collard, avocat et député Rassemblement Bleu Marine du Gard. Sophie.
Et on dit merci aux internautes qui ont laissé leurs commentaires et leurs votes sur la petite consultation sur le sudradio.fr. Voiture brûlée du Nouvel An, faut-il croire aux chiffres du gouvernement ? La réponse, Claire ?
Vous êtes 76% à dire non.
Voilà, ça c'est clair, c'est net.